1981, Jamaica will put on a new shoes and walk into a new land.
Et je crois qu'en 1981, la Jamaïque mettra des chaussures neuves et ira dans un monde nouveau.
C'était au micro de Dimanche Magazine, un des dizaines de Jamaïcains qui viennent à Port-au-Prince chaque semaine faire leur marché. Celui-ci, c'est clair, est un partisan de Michael Manley. Peut-être que les partisans de Edward Seaga, mieux fortunés, vont à Miami. Rendez-vous donc jeudi prochain, 30 octobre, pour la journée des élections à la Jamaïque. Pour l'instant, chers amis, passez un bon dimanche après-midi.
Par Usman, fabricant des dentifrices Fluocaril et Fresca, de l'huile Citadelle et de l'excellente Mantegue au label Crème.
Bonsoir, ce journal est retransmis par la RDC au CAI et Radio Créole au Cap-Haïtien. Quand le fleuve Artibonite est en crue, cela signifie que des centaines d'hectares plantés en riz et autres denrées sont sous les eaux. Les gens habitant les parages sont de nouveau sinistrés. À chaque crue du fleuve, ils sont obligés de laisser leur maison pour assister impuissants à la perte de tout ce qu'ils possèdent. Évidemment, il serait souhaitable qu'une étude sérieuse soit entreprise pour voir que faire pour venir en aide aux riverains. Toujours de la région de l'Artibonite, le comité de relèvement de Liancourt se réunira demain après-midi à 4h à l'église du Mont Carmel de Liancourt. Les points suivants seront à l'ordre du jour, l'achèvement de l'église de la localité, l'extension du réseau hydraulique, la possibilité d'arrosage de 4000 hectares et l'électricité à Liancourt. Un banc pour la Conatra pour l'efficacité de son personnel. En effet, une auditrice étrangère, Françoise Elisabeth Clark, a été agréablement surprise devant l'efficacité de ce personnel. La semaine dernière, nous écrit-elle, après avoir été seulement quelques jours en Haïti, elle se trouvait dans un des autobus allant à Pétionville un soir. C'est un trompé d'arrêt, elle a été jusqu'au terminus, où elle a été aidée par le chef de station ainsi que le chauffeur du bus qui l'ont ainsi aidée à rentrer chez elle. Et cette lettre qui porte l'entête de l'école Sainte-Trinité est signée Françoise Elisabeth Clark. Quand la régie se fâche. Dans une note de presse parue cet après-midi, la régie du tabac dénonce l'exploitation outrancière du marché par des commerçants insatiables qui connaissent bien ce marché et qui investissent toujours à profit au détriment des petites bourses. À cela, je cite toujours, la régie du tabac et des allumettes, au cours de maîtres rencontres, a signalé l'effet néfaste du stockage dans les entrepôts et pan pour les commerçants. Si les usines produisaient à plein rendement, poursuit la note de presse, il y aurait superproduction, les prix s'écrouleraient et la rareté qu'on enregistre périodiquement ne serait plus qu'un vieux rêve et pan pour les centrales sucrières. Voilà ce qu'on appellerait, dans un style un peu elliptique, désordre chez les Grecs. On prend acte des accusations de la régie, mais faut-il croire qu'elle est, elle aussi, sans péché? En tout cas, pour aujourd'hui, elle est allée jusqu'à joindre le geste à la parole. Un balayage a été effectué au comptoir de vente du sucre, où tout le staff administratif a été révoqué et plutôt remplacé. Ce, dans le cadre, je cite, de la nouvelle orientation que le gouvernement entend imprimer à cet important service de l'administration publique. Ainsi donc, après près d'un mois de dénonciation du scandale du sucre, les organismes officiels commencent enfin à se réveiller. Ce n'est pas trop tôt, mais c'est un bon signe. Néanmoins, peut-être que la hache ne frappe pas encore assez haut. En tout cas, des commerçants mécontents de leur côté s'étaient présentés ce matin au département du commerce pour dénoncer, et je cite l'un de ces commerçants, la supercherie de la régie du tabac qui porte à côté de leur nom, dans ses communiqués, des quantités de sacs de sucre qu'ils n'ont jamais reçus. Quoi qu'il en soit, cela commence à bouger. Pourvu que ça dure, comme on dit, il en sortira bien quelque chose, peut-être pour le consommateur. En l'honneur de notre confrère Evans Paul et de son président Silvio Claude, le PDCH a décidé d'organiser une marche lundi prochain. Le PDCH, Parti démocrate chrétien haïtien, fait part de sa décision d'organiser, dans la stricte observance des lois et de la constitution haïtienne, une manifestation publique le lundi 27 octobre de 10h du matin à 1h de l'après-midi pour la libération de Silvio Claude, président du PDCH, celle des autres membres du parti également arrêtés et aussi celle du journaliste Evans Paul, dit Compay Plume. Le parti sollicite du ministre de la Justice, de celui de l'Intérieur, du chef de la police de Port-au-Prince et de la préfecture, la protection nécessaire pour les participants à cette manifestation. 10 400 personnes prévoient le PDCH. Ces participants commenceront leur marche en ordre serré du numéro 16 bis de la rue Tirmas, siège central du parti. Ils emprunteront les rues Jean-Jacques Dessalines, rue Pavée, Panaméricaine, pour aboutir devant le département de la Justice au bicentenaire. Ils feront au retour le même trajet pour se disperser en ordre devant le siège du PDCH. Cette lettre, adressée au secrétaire d'État de la Justice, Maître Roch Raymond, est signée de Antoine Cangé Abel, secrétaire général du Parti démocrate chrétien haïtien, et Marie-France Claude, vice-présidente du parti. Toujours ce matin, nous avons reçu un télégramme du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes de Boston, réclamant la mise en liberté du président du Parti démocrate chrétien haïtien. Un autre télégramme pour la libération de Silvio Claude a été reçu de Caracas, capitale du Venezuela. Il est signé de Jean-Marie Benoît, Georges Fortuné et Leslie Maniga pour le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes d'Haïti, RDNP. Enfin, des nouvelles de Compay Plume. Voici une lettre qui a été adressée à Radio Classique par la secrétaire d'État de l'Information. Donnant suite à votre lettre en date du 20 octobre écoulé concernant l'arrestation de M. Evans Paul, survenu à son retour des États-Unis, je m'empresse de vous informer qu'une enquête est actuellement en cours. Si aucune charge n'a été retenue contre lui, il sera libéré au terme de cette enquête. Fin de citation, c'est signé de Jean-Marie Chanoine, secrétaire d'État de l'Information et des Relations publiques. Passons à la revue de la presse écrite locale maintenant.
Ce 22 octobre marque l'anniversaire de la prestation de serment du docteur François Duvalier. Des titres à la une du Nouveau Monde et du quotidien Le Matin soulignent l'événement. Ce 22 octobre, c'est aussi l'anniversaire du début du pontificat de Jean-Paul II. Pour les 2 ans de pontificat de Jean-Paul II, le nonce apostolique a fait paraître un article dans le Nouveau Monde. En la circonstance, le président Duvalier a envoyé un télégramme de félicitations au Saint-Père. Nous avions signalé hier la présence d'Haïti à la 3e Convention nationale et internationale des commerçants qui s'est tenue du 17 au 19 octobre à Santo Domingo. Haïti s'est fait représenter aussi ces jours derniers aux assises du GATT qui se tenaient à Genève. La délégation haïtienne à ces assises était présidée par le directeur général de l'administration des douanes, M. Hébert Joseph. Dans le domaine de l'urbanisme, Panorama fait un plaidoyer pour un quartier très mal en point, le quartier de Fort-Saint-Clair. C'est le vaste bloc compris entre la rue du Champ-de-Mars et celle dite rue Oswald-Durand prolongée qui aboutit au boulevard Harry Truman, après avoir longé le complexe immobilier logeant le département de l'éducation nationale. Panorama parle de ce quartier en ces termes. Le quartier de Fort-Saint-Clair échappe à toute tendance de sortir de son état misérable et minable. La rue du magasin de l'État particulièrement, qui traverse dans toute sa longueur l'air aux multiples aspects rétrogrades, offre une vision d'horreur des deux côtés de son encadrement qu'il faut avoir parcouru à pied pour se rendre compte que nous avons en plein Port-au-Prince une brousse infecte et disgracieuse propice à tous les dénigrements de la part de nationaux et d'étrangers. Par cette démarche, Panorama espère attirer l'attention des autorités compétentes sur le cas de Fort-Saint-Clair. Un nouveau numéro de Fraternité est sorti. L'organe du Parti social chrétien d'Haïti de Maître Grégoire Eugène écrit en éditorial « Nous retenons d'abord que si lors de la précédente incarcération de Silvio Claude, la cause avait été surtout plaidée à l'extérieur par les organisations internationales de défense des libertés humaines, cette fois-ci l'initiative des démarches est l'œuvre des secteurs démocratiques intérieurs, presse indépendante, parti d'opposition. C'est un pas de franchi. Nous avons noté avec satisfaction, déclare Fraternité, que le gouvernement a suivi avec un peu plus de scrupule les prévisions légales et constitutionnelles, jusqu'à présent en tout cas. Nous souhaitons, ajoute l'organe du PSCH, qu'aucune manœuvre ne viendra assombrir le tableau et que les autorités judiciaires, désormais saisies, s'en tiendront au respect des normes légales. Nous avons des textes légaux comme référence, nous devons nous en tenir à ces textes. Délit de presse, on parle d'outrage, très bien. En un contexte haïtien à ce stade, certaines audaces peuvent scandaliser. Le dernier numéro de La Conviction, constate Fraternité, est certes, disons, osé pour le milieu haïtien, car dans les pays démocratiques, il n'y aurait pas tellement matière à sensation. Puis Fraternité enchaîne sur l'arrestation d'Yvens Paul, compère plume. Yvens Paul écrit l'organe du PSCH, a fait son choix entre la démission et les jouissances faciles, le désespoir et la délinquance, l'acharnement à se forger un nom. Il a opté pour dire sur scène des vérités que d'autres taisent par conformisme, par démission, par matérialisme, par peur. Pourquoi donc l'avoir arrêté? A-t-il pris contact avec tel politicien tout à fait en sécurité là-bas et attendant que Yvens Paul et Co. se soient offerts en pâture et affronté tous les risques? Vient ensuite un long article de l'organe du PSCH intitulé « Coup d'État ». C'est le cas de se demander, en réalité, oui, de se demander qui est aujourd'hui le titulaire de l'exécutif. Fin de citation.
Maintenant, aller venir sur le pont. Les techniciens en la matière ont certainement un mot à dire.
Si elle n'a pas fait, c'est qu'il y a eu plusieurs délégations de ce pays à venir ici depuis octobre et que ces délégations ont expliqué officiellement et publiquement qu'il fallait 2 ou 3 petites choses, qu'on était bien d'accord pour inclure Haïti dans le lot des pays qui bénéficieraient d'une aide pétrolière très substantielle, mais que ceci, mais que cela, et que la démocratie n'est pas un vain mot. Ne croyez-vous pas que, messieurs, on ne vous demande pas un gros effort, tout juste quelques petites mesures qui permettraient progressivement, lentement, sans désordre, ah surtout pas de désordre, qui permettraient à un nombre de plus en plus grand de personnes de profiter du plus grand bien qui serait fait par cet accord. Tout cela aurait été dit. Tout cela
aurait été tu par la presse officielle. Mais comme à l'époque, on se méfiait de tout, on voulait cacher à tout le monde et surtout à soi-même les choses qui ne font pas sur le moment plaisir, alors on n'a pas très bien reçu ces délégations. On les a écoutées d'une oreille plus que distraite et même maladroite. Dans la presse officielle, on ne parle pas de ces choses, on ne prononce souvent le mot de démocratie, si souvent que le lecteur ou l'auditeur finissent par en être saoulé et par en perdre le sens. Un sens qui n'existe peut-être pas, mais on n'aime pas bien que d'autres que les officiels parlent de démocratie, et surtout pas les étrangers. Ah non, on voit rouge à ce moment, et on reçoit très mal. Conséquence, nos délégations, elles aussi, ne sont pas très bien reçues, enfin pas aussi bien qu'on l'espérait. Lorsque la presse officielle est seule à parler, ou lorsque la presse indépendante est suspecte de subversion parce qu'elle dit la vérité, vérité qui servirait à tout le monde, voilà ce qui arrive aux uns et aux autres. Donc, messieurs les journalistes officiels, le pays est à vous seul dorénavant. Et tout sera beau, tout sera paisible, tout sera idyllique, tout sera rose et merveilleux. Cependant, les Haïtiens risquent un beau matin de se réveiller avec une odeur épouvantable, insupportable, une odeur nauséabonde, putride. Tout surpris, en se bouchant les narines, ils se demanderont « Mais que s'est-il passé ?» Comme la presse officielle ne le leur dira pas, ils seront bien obligés de chercher par eux-mêmes. Oh, ils n'iront pas loin, car entre-temps, le pays sera devenu une poubelle, le panier fatras du reste du monde industriel. Vous souvenez-vous ? Mais oui, les déchets toxiques. Ça aussi, il fallait pouvoir oser le faire à l'époque. Oserez-vous, messieurs de la presse gouvernementale, à risquer votre chèque, votre job, votre position ou, qui sait, votre vie, pour dénoncer à temps, comme nous avons tenté de le faire en mars-avril, le projet qui consistait à transformer Haïti en une poubelle des villes et des usines américaines. L'oserez-vous, messieurs de la presse officielle ? Bon, à ce sujet, il faut que je vous raconte encore une autre histoire, une autre anecdote. À l'époque de la révélation par Radio Haïti de ce scandale des déchets toxiques, vous souvenez-vous de l'émotion considérable soulevée dans tous les milieux de l'opinion publique, dans tous les secteurs, du valériste, camoquin, opposants, gouvernementaux, indépendants, partout, les gens étaient tellement indignés de découvrir que des Haïtiens comme eux avaient eu le toupet, une minute, d'envisager, pour s'enrichir, pour faire de l'argent, de négocier le déversement de fatras sur la terre de Dessalines. À l'époque, j'allais alors assez régulièrement au ministère de la Justice, car son titulaire, Maître Evald Alexis, sur instruction officielle, m'avait-il dit, avait engagé des conversations avec Radio Haïti pour régler à l'amiable le litige qui opposait douloureusement depuis 5 ans notre station à l'avocat de la veuve Widmayer, Maître Constantin dit Maillard-Paul. Ces négociations tripartites, je dis bien tripartites, parce qu'il y avait d'une part le ministre, représentant du pouvoir, deuxièmement l'avocat en question et moi. Et je dis bien l'avocat en question, car souvent, entrant ou sortant du bureau du ministre, je le précédais ou je l'y suivais. Il y a une sorte de négociation tripartite. Je le croisais souvent dans l'antichambre du ministre Alexis, sa négociation s'était engagée depuis janvier, avait pris 3 mois pour déboucher sur un accord final. Ça avait été long, eh bien, ça avait été laborieux, difficile, mais on était arrivé à un accord final. Cela s'appelle, en langage de basoche, en langage judiciaire, une transaction sur procès. Tous les hommes de loi vous le diront, à tout instant, dans une affaire devant la justice, il est possible aux parties en cause d'écarter la procédure et de s'asseoir pour transiger, pour négocier, pour s'entendre. La justice le permet, et cela s'appelle justement une transaction sur procès. Cela signifie qu'on écarte le procès, qu'on écarte les condamnations, et qu'on s'assied ensemble, ou bien par personne interposée, pour transiger, pour conclure. En janvier, le ministre Evald Alexis, sur instruction officielle, me disait-il, et je le croyais, forcément, je le croyais, un ministre n'aurait pas dit qu'il avait des instructions officielles, tandis qu'il n'en avait pas. Le ministre m'avait demandé donc d'accepter cette transaction que l'autre partie demandait aussi. Le ministre, en bon fonctionnaire du gouvernement Duvalier, avait ajouté, un petit peu pour me vanter les qualités, les excellentes qualités du pouvoir, que celui-ci était bien disposé à mon égard, que je ne devais pas me montrer intraitable, intransigeant, qu'on m'aimait bien là-haut, qu'on ne voulait pas ma ruine, qu'on ne voulait pas que Radio Haïti disparaisse, qu'on voulait maintenir le dialogue. Il me disait tout cela d'un ton bon enfant et qui me faisait accepter ce qu'il disait. J'y croyais un peu. Je vous avoue qu'à l'époque, j'y ai cru sincèrement. Beaucoup d'indices m'avaient permis, avec tant de sollicitations diverses, de croire qu'il y avait, malgré cette panique officielle dont j'ai parlé ailleurs, cette panique des mois chauds de l'été 79, qu'il y avait eu une certaine retenue, laquelle avait peut-être empêché le pire. Je ne savais pas exactement où situer cette retenue, ni à quel moment, mais je sentais confusément que cette retenue avait peut-être empêché le pire. Pour nous peut-être. Protégeant nos vies, qui sait. Bon. J'avais donc accepté de bon cœur et de bon gré cette transaction, histoire de prouver un peu ma bonne foi, de dire, voilà, je veux bien m'entendre à l'amiable, payer ce qu'il y a à payer et puis en finir. Ne pas avoir l'air de me braquer sur mes positions, ce qui n'était pas ma position. De me braquer comme on m'en a souvent accusé. J'avais donc accepté de bon gré cette transaction, mais j'ai toujours souhaité, fondamentalement et au fond de mon cœur, que la vraie justice puisse enfin un jour, en toute liberté, se prononcer sur cette affaire de créance de Mme Widmayer. Je l'avais toujours souhaité, qu'en toute liberté, la justice se prononce sur ces titres de créance. Mais hélas, ceci n'a jamais été possible. Jamais tout au cours de cette histoire. Mais pour en finir et pour répondre à un geste conciliant du pouvoir par un geste conciliant de ma part, j'avais accepté cette négociation, quoique avec une certaine réticence, concernant l'autre partie. En effet, je me souviens que cette partie elle-même n'avait pas manifesté sa parole, le respect de la parole qu'elle donnait, et que 2 années auparavant, sur intervention du parquet de Port-au-Prince et de maître Rodrigue Casimir, on avait déjà engagé des négociations, acceptées par l'autre partie, mais hélas, avec une petite ruse, une entourloupette, juste le temps de faire oublier le scandale de l'agression en voiture, et une fois ce scandale oublié, on avait repris sa parole et on avait recommencé à me poursuivre. J'avais donc quelque appréhension, je me sentais agacé de reprendre cette négociation, mais cette fois-ci c'était un ministre d'État, et un ministre d'État autorisé et donnant la parole, engageant la parole de tout un pouvoir. C'est quand même beaucoup plus grave. Aussi, malgré ses réticences, j'avais accepté cette transaction. On avait pris 3 mois pour en mettre au point les termes. J'avais bien senti entre-temps que le ministre et d'autres envoyés du pouvoir avaient tenté de glisser ça et là, lorsqu'il avait été question du montant à payer à la veuve Widmayer pour la désintéresser définitivement, de glisser ça et là, qu'il aurait peut-être été possible de voir accepter une importante et grosse somme pour m'aider, disait-on, pour me prouver les bonnes intentions du pouvoir à mon égard. J'avais secoué la tête un peu tristement, mais résolument, pour faire comprendre que je tenais à payer moi-même intégralement toute la valeur, et que même l'argent de la solidarité obtenu, comme vous le savez, en vendant commercialement nos programmes, des programmes qui sont le fruit de notre travail, donc nous y aurions droit commercialement, eh bien, je le considérais, cet argent de la solidarité, comme une dette envers le peuple haïtien. Donc, pas question, mais je le disais très courtoisement et très respectueusement, d'accepter une aide aussi princière soit-elle. On avait fini par comprendre, et l'autre partie avait accepté un montant fixé de part et d'autre, assez important pour ma bourse, mais c'était enfin le bout du tunnel. Un montant fixé de part et d'autre, on s'était même entendu sur le texte de la renonciation au litige et à tous ses droits et prétentions que la veuve Widmayer devrait signer pour Radio Haïti en contrepartie de la valeur qu'elle toucherait. Devant cet accord global accepté formellement, tant par ce ministre d'État, en fonction, devant la parole donnée au nom du pouvoir par ce ministre, j'avais réuni toute la valeur réclamée. Je vous raconterai un jour dans quelles circonstances cette valeur a été réunie. en faisant, comme j'ai dit, une quête zoban autour de moi, dans ma famille, parmi mes amis, dans les fonds de roulement de Radio Haïti, dans la caisse de solidarité dont le montant n'arrivait pas à suffire au paiement de la somme, et aussi en empruntant carrément autour de moi, disons, à des taux usuraires, puisque on m'avait dit qu'en 2 ou 3 jours, la question serait réglée. Donc, je me suis engagé devant des usuriers pour 2 ou 3 jours. J'ai donc réuni l'argent, j'ai acheté un chèque de direction à la banque, et je me suis présenté au bureau du ministre ce mardi matin-là, justement, il faut y revenir après cette longue, trop longue digression, pour en finir et recevoir le texte signé de la déclaration notariée, s'il vous plaît, qui mettrait fin amiablement au litige. Je me souviens que ce matin-là, il y avait beaucoup de tontons macoutes dans l'antichambre du ministre. L'accueil enthousiaste qu'ils me firent, moi, directeur de Radio Haïti Inter, me surprit. On m'entourait de partout, on me félicitait, on me cajolait. Vraiment, c'était un accueil chaleureux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, ils me disaient, j'avais évité au pays la honte d'être transformé en panier fatra. C'était un cri général. Radio Haïti méritait reconnaissance tout le monde. C'est pas possible pour payer à ta tournée panier fatra les États-Unis. Oh, telle est saline dans ta réléan, moué, pour question ça. Tels sont les termes et les propos indignés de ces macoutes, des braves gens qui, au fond, aiment leur pays, tout simplement comme vous et moi. Ils font parfois des choses répréhensibles, mais quand on gratte la mauvaise croûte, on voit bien qu'ils peuvent aussi vibrer comme vous et moi à des choses que tout le monde apprécie ou déprécie. Il y avait donc eu cette atmosphère de fête, comme si on célébrait ensemble une victoire. Et oui, au fond, on célébrait une victoire, celle de l'hygiène publique sur les déchets toxiques. Et puis, je fus introduit dans le bureau du ministre Alexis, tandis que Maître Paul en sortait. Il avait lui aussi un éclair de triomphe dans le regard, et ce regard m'inquiéta. Et je me dis, il est peut-être content lui aussi que nous n'ayons pas été le panier fatra du monde occidental. Hélas, je préjugeais malencontreusement. La suite me prouvera mon erreur d'appréciation. Le ministre aussi était glacé. Je lui présentai le chèque, qu'il empocha immédiatement, mais l'affaire n'était pas réglée pour autant, car d'un ton cassant, il me présenta un document que je devais signer. Moi, signer? Mais c'est à la dame Widmayer. Enfin, Widmayer, Sanson, c'est à elle de signer quelque chose. Moi, je paye même très cher. Nous étions convenus qu'en paiement de cette forte valeur, la dame me signerait une renonciation en bonne et due forme. Bref, je rappelais tout notre accord réciproque, péniblement mis au point durant 3 mois, et qu'hier encore, monsieur le ministre, vous aviez accepté devant mon avocat, il y avait un témoin, tout était réglé, tout était entendu, conclu. Hier encore, dit le ministre, mais entre-temps, vous parlez beaucoup trop. Je ne voyais pas ce que j'aurais pu dire qui aurait pu courroucer un ministre du gouvernement Duvalier. Il fouilla dans ses paperasses et il finit par trouver un exemplaire d'une nouvelle liste datant d'il y avait quelques jours où j'avais publié une réponse à un texte infamant et diffamatoire de Constantin dit Maillard-Paul. Mais dans ce texte, responsif à des attaques baveuses sur la solidarité, je n'avais fait que reprendre en partie un éditorial publié, diffusé le 9 novembre, après la condamnation de Radio Haïti. Tout ce que j'avais dit dans le Nouvelliste avait été préalablement, 6 mois au préalable, dit le 9 novembre au micro de Radio Haïti. Donc, tout cela me paraissait parfaitement connu, connu de tous. Pourtant, le ministre était furieux. « Ouais, vous êtes insolent, vous êtes impertinent, il faut vous mettre à genoux, il faut ceci, il faut cela. » Le ton avait radicalement changé d'un jour à l'autre. Alors, une lumière se fit dans mon esprit. Il y avait autre chose qui justifiait ce revirement. Oui, je trouvais. Mais oui, les déchets toxiques. C'est ça la chose nouvelle, la poubelle haïtienne. Il fallait me faire payer cela aussi. Voilà pourquoi ces négociations ont été rompues. Voilà pourquoi on n'a pas pu avoir, en mars-avril, la conclusion amiable de l'affaire Radio Haïti. Voilà pourquoi nous avons été en cassation en juin. Et là, je me souviens d'une petite phrase du ministre et d'un geste de...